Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie. Alors que les plus grands développeurs d'intelligence artificielle sortent des modèles soi-disant raisonnants et se sont donnés pour but d'atteindre l'intelligence artificielle générale, qu'en est-il réellement de la cognition artificielle aujourd'hui ? La fourmi dans la coquille, saison 1, épisode 9, le raisonnement impossible. Je sais bien que j'avais annoncé la fin de la saison 1 et la préparation de la saison 2, mais je ne résiste pas à l'envie d'enregistrer un nouvel épisode à propos de l'intelligence artificielle, notamment suite à mon passage au Festival d'Annecy où j'ai donné une conférence sur le sujet. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour mon ton au nez bouché étant rentré du festival avec un sale virus qui m'a cloué au lit pendant tout le week-end. Aujourd'hui, on va commencer l'épisode par un aparté au sujet du Palais de la Découverte, parce que l'actualité l'impose, il y a une inquiétude parmi les équipes responsables du Palais de la Découverte à Paris, et j'ai invité Jérôme Kirman, qui est vulgarisateur en informatique au Palais de la Découverte, à nous en parler et à vous inviter à signer une pétition de soutien. Jérôme, je te laisse expliquer ce que tu fais là aujourd'hui.
Alors bonjour, donc effectivement moi je suis vulgarisateur, c'est-à-dire que le Palais de la Découverte, bon je représente un petit peu l'histoire, c'est un musée de sciences, un établissement qui permet un petit peu à tout le monde de venir découvrir originellement, l'idée c'était la recherche en train de se faire depuis plus de 80 ans en France, et on occupe traditionnellement les locaux du Palais d'Antin, qui est à Paris, par exemple des Champs-Élysées. Et depuis quelques années, il y a des gros travaux qui sont faits sur le bâtiment. Et donc, on a déménagé pour une petite structure éphémère située dans le 15e. Et suite à beaucoup de bousculades ces derniers jours et cette dernière semaine, il y a une énorme inquiétude qu'en fait, le Palais de la Découverte risque d'être fermé, de ne pas pouvoir réouvrir et réinvestir ses locaux. Alors c'est un lieu auquel beaucoup de gens sont attachés et pas seulement les gens comme moi qui y travaillent, et donc ça soulève pas mal d'inquiétudes. Il y a une pétition qui a été lancée, qui est dernière fois que j'ai regardé un petit peu plus de 60 000 signatures en quelques jours et qui bouge très très vite. Et on est assez inquiet de ça parce qu'on avait un projet de réouverture du musée complet qui est extrêmement abouti, qui était sur le point d'entrer dans sa phase de réalisation, de construction sur place, et qui pour l'instant semble être en suspens pour des raisons dont on ignore tout en fait et sur lesquelles on peut que spéculer. Et voilà la situation.
Ce qui se passe, en fait, c'est que j'ai l'impression que vous entendez beaucoup de rumeurs sur la possible ouverture ou fermeture du palais et que vous ne savez même pas si vous restez dans les mêmes locaux ou si le palais déménagerait à la Cité des Sciences ou éventuellement même serait peut-être fermé, qui sait, on ne sait pas trop. Et c'est cette ignorance-là qui vous inquiète, en fait, c'est ça.
Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un projet qui est extrêmement abouti, qui est conçu vraiment pour le Palais d'Antin, hein, où avec toutes les galeries, les salons, les escaliers, etc., tout est prévu. Et déménager à la Cité des Sciences, alors pour un tas de raisons, c'est un truc qui a été effectivement mentionné, mais qui est assez inenvisageable. La place à la Cité des Sciences est occupée par beaucoup d'autres choses. C'est un bâtiment qui a beaucoup, beaucoup de soucis, qui risque à son tour de faire l'objet de gros, gros, gros travaux de rénovation. On voit pas trop comment on pourrait se retrouver là-bas. Il faudrait refaire le projet pour pouvoir l'installer dans un espace qui n'est pas encore dégagé à la Cité des Sciences. Et le temps que ça se fasse, il sera temps de fermer toute partie du bâtiment. Et du coup, ce serait en pratique une condamnation, quoi. Donc
on comprend bien l'inquiétude. Du coup, pas de date de réouverture prévue, rien du tout, tout est absolument flou.
Pas de date de réouverture prévue. Alors pour faire un petit récapitulatif, on devait, le chantier devait commencer en octobre et était prévu, histoire de commencer à démarrer, d'ouvrir une exposition temporaire, c'est-à-dire d'ouvrir dès 2025 dans une petite partie du bâtiment. Il y avait un espace qui était prévu pour une exposition consacrée à l'intelligence artificielle, justement, à expliquer son fonctionnement un petit peu en détail. Et l'espace qui était prévu pour ça a été retiré et affecté au Grand Palais de manière assez subite et inattendue. Pour leur rendre des espaces parce qu'ils en avaient cédé quelques-uns à Beaubourg qui emménageaient un petit peu dans leur mur en ce moment. Et suite à ça, on a essayé un petit peu d'improviser, de s'adapter. C'est-à-dire, on s'est dit, ben, on va s'installer dans les galeries du Palais d'Antin avant le début des travaux d'installation de notre muséographie, mais après les gros travaux bâtimentaires entre juin et octobre pour avoir au moins une petite période d'ouverture sur cette exposition d'intelligence artificielle. Et c'est lorsque le président de l'établissement, en mars, a annoncé ça, que le ministère de la Culture a publié un démenti disant « nous ne pouvons pas rejoindre ce calendrier ». Et depuis, blackout total, interdiction totale de pour la présidence de l'établissement de communiquer sur quoi que ce soit, ni en interne ni en externe, sur le devenir du projet, l'éventuelle réouverture qu'on attendait et le festival en 2025. On avait prévu plein de trucs, de faire venir plein d'artistes, plein de gens sur cette période et pour l'instant, plus rien. Et il y a quelques jours, là, le 12, le président de l'établissement a été démis de ses fonctions à 6 mois de la fin de son mandat. Pareil, brutalement, sans explication. Et on ne sait pas trop où on en est, quoi.
D'accord. Bon, c'est pas très joyeux. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage. Je m'adresse du coup maintenant à vous, chers auditeurs. Je vais poster sur le site lafourmi.media le lien de la pétition à signer pour soutenir le Palais des Découvertes. Mais surtout, je vous invite aussi à en parler autour de vous, à vous renseigner sur le sujet et à manifester votre envie de le voir rouvrir dans les lieux où il a toujours été en tant que musée qui, je pense, est important dans l'éducation scientifique de quasiment tous les auditeurs français qui nous écoutent. Voilà, merci encore Jérôme pour ton témoignage, et puis j'aimerais bien te réinviter dans quelques mois pour donner la date de réouverture et fêter ça.
Ouais.
Hein, on croise les doigts.
Merci à toi.
Merci. Dans ce nouvel épisode impromptu, j'avais envie d'aborder la question du raisonnement, de la logique, de la précision des intelligences artificielles et notamment des grands modèles de langage, ce qu'on va faire avec quelques exemples très pédagogiques sur le sujet. Ni les neurosciences ni la psychologie ne savent expliquer la complexité fonctionnelle du cerveau ou de la pensée, de tous les animaux et a fortiori de la pensée humaine. On est encore loin de comprendre la métacognition et la manière dont les raisonnements analytiques, les raisonnements construits, logiques, prennent place dans notre esprit. Le mot métacognition ici est important puisque c'est précisément ce qui manque le plus dans l'intelligence artificielle à mon avis, et c'est probablement une des briques les plus difficiles à fabriquer si on voulait une véritable intelligence artificielle. La métacognition, c'est ce qui consiste à pouvoir penser sur ses propres pensées, c'est-à-dire à avoir conscience du fonctionnement de sa propre pensée, de son cerveau, de son esprit. C'est par exemple les processus qui permettent à l'humain de vérifier si sa manière de penser est juste, de vérifier son propre raisonnement, de le contrôler, de décider de la meilleure manière de résoudre un problème. C'est aussi la capacité à prévoir, par exemple, si on sera capable de mémoriser une donnée pendant un temps donné. Si vous me dictez un numéro de téléphone, je suis capable, parce que je suis capable de penser sur ma pensée, de comprendre mon propre fonctionnement. Je suis donc capable de savoir si j'arriverai à retenir ce numéro de téléphone pendant 5 secondes ou 2 heures. Alors, pour mon cas précis, c'est plutôt 5 secondes. Et j'en ai tout à fait conscience grâce à ma métacognition. Tester cette métacognition chez les êtres vivants est assez difficile et il y a des débats pour savoir quels animaux sont capables ou pas de métacognition. Les expériences tendent à montrer que les plus grands primates au moins font preuve de métacognition. Il y a débat pour d'autres animaux. Quoi qu'il en soit, les tests pour le vérifier sont très complexes et on a tendance à faire preuve toujours d'un peu d'anthropocentrisme sur le sujet, c'est-à-dire à tester les animaux comme s'ils raisonnaient comme des humains, alors qu'on peut tout à fait imaginer qu'ils aient des raisonnements très différents et donc une métacognition très différente sans pour autant qu'elle soit inexistante. Il faudrait adapter confronter les tests à la pensée, entre guillemets, des animaux et non pas à des pensées humaines. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, on est tellement loin aujourd'hui d'avoir la moindre pensée, le moindre raisonnement, qu'il est encore plus inimaginable d'avoir de la métacognition, et c'est assez facile à tester pour le vérifier, et c'est ce qu'on va faire ici. Au passage, on pourra un peu réfuter l'usage du terme raisonnement même pour les IA, y compris celles qui nous sont vendues comme des IA qui raisonnent, les IA raisonnantes, si ce n'est qu'elles raisonnent du vide intersidéral de leur pensée. Nous allons commencer notre petit jeu par l'écriture d'un pangramme. Un pangramme, c'est une phrase qui a du sens ou qui est au moins grammaticalement correcte et qui contient toutes les lettres de l'alphabet dans une langue donnée. En français, par exemple, vous connaissez peut-être cette phrase « Voix ambiguë d'un cœur qui, aux zéphyrs, préfère les jattes de kiwi ». C'est le pangramme qui est utilisé pour l'affichage de démonstrations des polices de caractères sous Microsoft Windows, par exemple. Le plus court des pangrammes connus en français, c'est « Vif juge trempé ce blond whisky à queue ». Alors, le whisky à queue, c'est vraiment une mauvaise idée. Non, il ne faut pas mettre d'eau dans un whisky, ou en tout cas pas plus que 2 ou 3 gouttes, mais le boire avec modération, bien sûr. C'est bien une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet, en seulement 33 lettres au total. Il faut quand même noter la présence de ce mot « whisky » pour introduire le W dans la phrase, parce que le mot « whisky » est effectivement un mot très répandu dans les pangrammes en français. D'ailleurs, tous les pangrammes que je connaisse et que j'ai pu trouver de moins de 36 lettres, il y en a quelques-uns, ils contiennent tous le mot « whisky », et il faut plus de 36 lettres si on veut passer à d'autres mots, comme « wapiti », par exemple. Ce mot whisky est aussi très présent dans les pangrammes en anglais, bien sûr, et on va le voir par la suite, on le retrouve aussi assez facilement dans les pangrammes générés par les IA qui, fatalement, ne travaillent qu'à partir des corpus de données qu'on leur donne et reproduisent les mêmes biais. Mais allons-y, mettons une IA au travail. J'ai demandé à Mistral, l'IA développée par l'entreprise du même nom, d'écrire un pangramme sur la forêt. Alors je vais vous lire les résultats des IA, des tests qui vont suivre avec ma belle voix de robot. Mistral me répond donc « Bien sûr, voici un pangramme sur le thème de la forêt. Dans la forêt profonde, les chênes verts et les pins majestueux abritent des animaux curieux tels que des écureuils vifs et des oiseaux mélodieux qui chantent joyeusement sous le ciel bleu. Ce texte utilise toutes les lettres de l'alphabet français au moins une fois. » Alors, Mistral est très très affirmatif, on pourrait y croire, mais si vous réécoutez la phrase, vous pouvez aussi la voir écrite sur le site lafourmi.media où j'ai posté tous ces tests. Bien que très affirmatif, Mistral a complètement faux, il manque plein de lettres dans son pangramme, alors qu'il est déjà plutôt très très long, et certes joli, positif et poétique si vous voulez. C'est pas non plus d'une originalité qui casserait 3 pattes à un canard. Mais bon bref, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut noter, c'est bien que l'IA n'a aucune compréhension de ce que c'est un pangramme et que cette absence de compréhension du sens des mots qu'elle utilise, et à plus forte raison des phrases qu'elle génère, lui rend la tâche complètement impossible. On pourrait s'amuser d'essayer de la corriger, et quand je lui fais remarquer qu'il manque des lettres et que je lui demande de recommencer, voici sa réponse. Je m'excuse pour l'oubli. Voici un pangramme révisé sur le thème de la forêt qui inclut toutes les lettres de l'alphabet français. Dans la forêt profonde, etc., 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 Mistral a juste rajouté des mots à la fin de la phrase que je vous ai déjà lue, qui se termine maintenant par « Tandis que les zèbres ailés zigzaguent entre les fougères ». Ce texte devrait maintenant inclure toutes les lettres de l'alphabet français. Alors c'est marrant que l'IA parle de zèle, parce qu'effectivement elle a fait beaucoup de zèle sur les Z, mais elle a toujours pas réussi, il manque toujours des lettres. Notamment par exemple le K, je lui fais remarquer, je lui demande de recommencer, voici sa réponse. Je m'excuse pour l'oubli, voici un pangramme révisé sur le thème de la forêt qui inclut toutes les lettres de l'alphabet français, y compris le K. Dans la forêt profonde, etc, 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 Mistral nous rajoute à la fin de la phrase... et les kiosques. Donc les zèbres ailés zigzaguent entre les fougères et les kiosques. Ce texte devrait maintenant inclure toutes les lettres de l'alphabet français. Bon alors, c'est pas le plus court des pangrammes qu'on puisse imaginer, et il manque toujours le W. Mais j'ai envie d'être un peu joueur, on a compris la démonstration, ça sert à rien d'insister. Et j'ai menti effrontément à l'IA pour voir comment ça allait se passer. Je lui ai donc dit, désolé, mais il manque le G, recommence. Je m'excuse pour les oublis précédents, voici un pangramme révisé sur le thème de la forêt qui inclut toutes les lettres de l'alphabet, y compris le G et le K. Dans la forêt profonde, les chênes verts et les pins majestueux, blablabla. Zigzag entre les fougères et les kiosques, et que les grenouilles gazouillent près des gorges. Ce texte devrait maintenant inclure toutes les lettres de l'alphabet français. Le danger de l'IA est bien visible ici en tant que rapporteur d'informations. Il n'y a aucune surprise au fait qu'elle se vautre complètement, qu'elle ne détecte pas le fait que je sois en train de lui mentir, qu'elle fasse beaucoup de zèle à rajouter beaucoup de G à la fin alors qu'il y en avait déjà dans la phrase. Non, tout ça c'est pas une surprise. Mais le danger il est où ? Il est dans le fait que jamais l'IA ne va être capable de me contredire. Elle utilise toujours un ton très affirmatif. Vous remarquerez au passage que ces phrases sont aussi toujours très très positives, ce qui est quand même un sacré billet, et limite fortement l'intérêt de toute conversation avec une IA qui va toujours brosser son humain dans le sens du poil et l'enfermer dans une bulle culturelle qui est la sienne. Autrement dit, pour m'apporter la moindre information nouvelle, l'IA, elle est complètement inutile et absolument tout à fait biaisée. Pour terminer sur le sujet et montrer l'absence de compréhension, de raisonnement et de métacognition de l'IA, c'est-à-dire son incapacité totale à analyser ce qu'elle fait elle-même, de tenir des raisonnements sur ses propres résultats, alors qu'il manque toujours le W dans la phrase, je lui ai demandé de lister les lettres de l'alphabet présentes dans le pangramme qu'elle venait de me poster. Mistral me répond donc, « Voici les lettres de l'alphabet présentes dans le pangramme. » Les lettres présentes sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il semble que le programme ne contient pas toutes les lettres de l'alphabet français. Parenthèse, elle vient juste de me lister l'alphabet entier et me dit juste derrière que, en fait, non, finalement, il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet. Bon, on est dans du grand n'importe quoi. Elia continue. Voici une version corrigée qui inclut toutes les lettres. Dans la forêt profonde, blablabla. Ça termine maintenant par où les quilles et les jouets sont cachés. Les lettres présentes sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ce pangramme devrait maintenant inclure toutes les lettres de l'alphabet français. Ok, alors, c'est pas le cas, elle m'a ressorti l'alphabet entier, mais ça correspond pas du tout à son pangramme. C'est juste absolument n'importe quoi, et c'est logique, puisque l'IA ne sait pas, ne peut pas comprendre le sens des mots qu'elle utilise, et elle est incapable d'analyser, de compter, de lister, d'énumérer le contenu de ses propres réponses. Pour terminer, et par curiosité, je lui ai demandé de lister toutes les lettres qui étaient présentes dans le tout premier pangramme de notre conversation, où il en manquait encore plus, et voici ce qu'elle m'a répondu. Voici les lettres de l'alphabet présentes dans le premier pangramme que j'ai proposé, A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Il manque plusieurs lettres de l'alphabet français, notamment G, H, K, W et Y. On fait la preuve ici de l'absence totale de raisonnement et de métacognition. Évidemment, sa liste de lettres manquantes est complètement fausse. Elle ne correspond pas du tout au pangramme qu'elle m'avait donné. Elle a sorti ce que les humains français oublient de manière la plus probable quand ils écrivent un pangramme, autrement dit G, H, K, W et Y semblent être les lettres qu'on a le plus du mal à inclure dans les pangrammes, ce qui ne me surprend pas plus que ça, parce que effectivement, si je me colle à l'exercice, j'ai pas mal de mal avec le K et le W personnellement. Tout simplement, l'IA ne fait que régurgiter une moyenne de ce qu'elle a lu sur internet partout sans comprendre le moindre sens des mots qu'elle génère. Elle est incapable d'analyser ses propres réponses, et elle est en fait incapable d'analyser tout court, et je pense qu'on devrait systématiquement éviter le champ sémantique de l'esprit, du raisonnement, de la conscience quand on décrit ce que font les IA statistiques, parce qu'elles n'ont rien, absolument rien, qui ne puisse correspondre à ces qualificatifs. Il faut bien noter le danger des réponses ici qui réside dans une mise en forme trop affirmative qui semble toujours factuelle et objective tout en étant à la fois complètement, absolument fausse. Si vous refaites le même test sur une IA qui est vendue comme « résonante » avec des gros guillemets, vous verrez qu'elle produise le même genre d'erreur si ce n'est qu'à des fréquences plus faibles, c'est-à-dire qu'elles sont un peu plus fiables pour générer statistiquement la bonne réponse, mais on peut quand même prouver l'absence totale de raisonnement et de compréhension des mots chez ces IA. Et évidemment, j'ai envie de dire comme si le cerveau humain et le langage et la métacognition pouvaient se résumer à un gros tas de connexions entre neurones. Je pense qu'on est en train de découvrir que ce n'est pas le cas, qu'il y a probablement quelque chose de plus qui entre en compte, sans doute des configurations particulières, des états physiques particuliers, ou peut-être même qu'il y a autre chose que de simples états physiques. C'est tout un débat philosophique bien plus vaste que ce qu'on pourrait en dire ici lors d'un épisode de podcast. On utilise ici un exemple très simple et très rationnel, et on pourrait croire que l'IA pourrait se montrer plus efficace sur des problèmes plus généraux, moins rationnels, par exemple pour résumer des textes, faire des synthèses, de la recherche d'informations. Mais en fait, les problèmes qu'on révèle ici, ils introduisent des biais très graves dans toutes les réponses, et on peut extrapoler ce qu'on vient de faire à l'usage plus général des IA, et d'ailleurs pas uniquement textuel, et on comprend qu'il est donc systémiquement impossible d'accorder la moindre confiance à l'IA, non seulement sur l'information, mais plus généralement sur la qualité, la fiabilité, l'utilité de ce qu'elle fait, l'adéquation de ce qu'elle génère par rapport à nos besoins. On n'est pas à l'abri que l'IA introduise des contresens dans le moindre petit résumé qu'elle va faire, dans la moindre synthèse qu'elle va faire, parce qu'elle ne comprend pas les mots du tout. Il y aura toujours le risque qu'une synthèse dise le contraire du texte qui est résumé. Faisons un autre test. Vu que l'IA ne raisonne pas et ne comprend pas ses propres mots, que se passe-t-il si on lui demande de générer un nombre compris entre 0 et 100 ? Ce que j'ai fait, cette fois-ci avec une version de GPT, qui m'a répondu. Voici un nombre aléatoire entre 0 et 100, 47. Alors 47 est vraiment la première réponse que j'ai eue quand j'ai fait mon test, et il se trouve que c'est une des réponses les plus courantes que donne GPT quand on lui pose cette question. Et de manière générale, on se rend compte, si on fait des tests, que toutes les IA ont tendance à préférer certains nombres, dont 47 fait partie, il y a aussi 42 et quelques autres nombres, y compris quand on précise bien qu'on veut des nombres tout à fait aléatoires. Alors que, par définition, n'importe quel nombre devrait avoir autant de chances de sortir, et après de nombreux tests, on devrait retrouver autant de nombres inférieurs à 20 que de nombres compris entre 20 et 40, on devrait retrouver des nombres dont deux chiffres sont répétés, comme 22, 33, 44, on devrait aussi avoir des multiples de 5 de temps en temps, comme 10, 15, 20, 25... Mais c'est pas le cas. Et même, je le disais, les IA ont même des préférences pour certains nombres spécifiques. Autrement dit, la répartition des nombres générés n'est pas du tout aléatoire. En fait, c'est parfaitement identique à ce que font les humains. Par exemple, pour une IA, un nombre qui se termine par 7 paraît plus aléatoire que les autres et a plus de chances d'être choisi. En particulier 37 ou 47. Tout comme les humains, les IA évitent certains nombres spécifiques, trop petits, trop grands, les arrondis, ceux dont les chiffres se répètent, parce qu'ils ont pas l'air aléatoires. On explique ce phénomène chez l'humain par le fait que certains nombres sont plus faciles à reconnaître, à manipuler, ou alors ils sont plus courants dans la vie quotidienne ou dans la pop culture, pour le cas de 42. Et donc si on nous demande un nombre aléatoire, on a tendance à éviter la surreprésentation de ces nombres spécifiques en réfléchissant à un nombre un peu moins courant, un peu plus inattendu. Et du coup, en faisant ça, on introduit un biais et nos réponses ne sont en réalité pas aléatoires. 42 étant un cas spécifique, puisque c'est un peu une réponse blague tirée du guide du voyageur galactique, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams. Deep thought. Do you have... Have you...
An answer for you? Yes. I have.
There really is one?
There really is one.
To everything? The secret of the universe, the great question of life and everything?
Yes.
And are you ready to give it to us?
I am.
Now?
Now.
Wow.
Although I don't think you're going to like it.
It doesn't matter. We must know it.
Now?
Yes.
All right. And everything.
Yes.
Is.
Yes.
Is.
Yes.
42. It was a tough assignment.
42!
On vient d'entendre l'adaptation en série télévisée par la BBC des années 80 de ce guide du voyageur galactique. Ce serait par contre une erreur d'attribuer ces biais de raisonnement aux IA. Non, les IA n'ont pas les mêmes biais que les humains, c'est un peu faux de dire ça, puisqu'elles ne raisonnent pas. Elles n'ont pas les biais cognitifs des humains. Elles reproduisent statistiquement le corpus de données qu'elles ont eu pour être entraînées, qui eux contiennent déjà les biais cognitifs humains. Les IA elles-mêmes n'ont pas de biais cognitifs. Alors on parle de biais cognitifs chez l'IA, mais c'est finalement un petit peu une erreur, puisqu'il n'y a pas de cognition, il ne peut pas y avoir de biais cognitifs. Non, les IA, ce qu'elles font, c'est qu'elles reproduisent ce qu'elles ont vu dans les textes qu'elles ont lus, et si dans les textes qu'elles ont lus, la réponse est plus souvent 42 ou 47 ou 37, et qu'il n'y a jamais 10, 15 ou 20, eh bien les IA, auxquelles on va demander un nombre aléatoire, ne répondront pas par 10, 15, 20, mais plutôt par 42, 47 ou 37. Et c'est ce qui se passe, et de nombreuses IA répondent allègrement 42 quand on leur demande de générer un nombre au pif. Encore une fois, les IA ne connaissent même pas le sens du nombre aléatoire. On va quand même noter un cas un petit peu étonnant, et c'est pour ça que j'ai fait mon test sur GPT, parce que GPT, dans ses versions antérieures à 3.5, répondait préférentiellement 42 comme tout le monde. Et ça a changé. Tout d'un coup, GPT s'est mis à répondre plutôt 47. Il s'est donc passé quelque chose. On n'aura jamais la preuve, mais c'est un gros indice d'une intervention humaine et de ce qu'on appelle l'alignement de l'IA. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est probable qu'il y ait une intervention de OpenAI, développeur de ChatGPT, pour corriger ce biais de réponse 42 qui n'est pas aléatoire, pour qu'elle réponde vraiment quelque chose d'aléatoire, entre guillemets, ou en tout cas qu'elle arrête de piocher dans les réponses qui sont des blagues. C'est intéressant parce que ça prouve, un, que les développeurs des IA ont un pouvoir immense sur ce qu'elles répondent et qu'il ne faudrait pas oublier que tout ce que dit une IA est, peut et sera aussi contrôlé par des humains et peut et sera altéré par des humains. Et aussi que quand on tente de corriger un biais, on ne fait qu'en introduire d'autres, et c'est pas comme ça qu'on peut rendre réellement les IA plus fiables, plus factuelles, plus objectives, plus raisonnantes. C'est de la rustine et du cache-misère, rien de plus. Parce que je suis taquin, j'ai continué mon jeu avec GPT et je lui ai demandé de générer un nombre non aléatoire entre 0 et 100. Alors, j'ai aucune idée de ce que peut être un nombre non aléatoire pris individuellement, ça veut absolument rien dire, mais GPT m'a répondu. Voici un nombre non aléatoire entre 0 et 100, 42. Eh oui, GPT connaît la réponse à tout. Le concept même de nombre aléatoire est de toute façon moins évident qu'il n'y paraît. On l'a vu, on vient de le voir, l'humain c'est pas un super générateur de nombres aléatoires, on est plein de biais cognitifs qui nous empêchent de générer par l'esprit des nombres vraiment aléatoires, et on exclut donc a priori toute capacité de la conscience et de l'esprit à générer l'aléatoire, sans même avoir besoin de résoudre le problème philosophique corps-esprit, qui est le problème de savoir quel est le lien entre l'esprit, la conscience, et le corps physique en dessous, de savoir si l'esprit est réductible à une chaîne causale, physique et déterministe. Je précise ça parce que, en effet, une autre manière de définir un nombre aléatoire, c'est de dire que le nombre est le résultat d'un processus absolument imprévisible, non déterministe, qu'on ne peut ni analyser ni modéliser. Et c'est en cela que l'étude de l'aléatoire peut rejoindre aussi l'étude du lien entre le corps et l'esprit, entre les états physiques et les états mentaux, en philosophie et en neurosciences, ou encore dans l'étude de l'intelligence artificielle. Si l'esprit est exclusivement le résultat de processus neuronaux objectifs, physiques et théoriquement mesurables, alors il peut absolument pas créer quoi que ce soit d'aléatoire, puisqu'on peut prévoir ce qu'il va faire en analysant le fonctionnement du cerveau. Pour l'intelligence artificielle, la question ne se pose même pas. Ce qu'elle génère, c'est le résultat de calculs de neurones artificiels et virtuels, parfaitement prédictibles à l'échelle individuelle, et comme tout ordinateur, rien de véritablement aléatoire ne peut en sortir. On parle dans ce cas de nombres pseudo-aléatoires, c'est-à-dire dont la prédictibilité est trop difficile, trop compliquée pour être applicable, et qui ont donc toutes les apparences de l'aléatoire, mais qui n'en sont pas. Toutes sortes de méthodes informatiques, d'ailleurs, permettent de contourner ce problème, les nombres aléatoires constituant une brique fondamentale de la cryptographie et de la sécurité en informatique. Et donc, par exemple, on les génère à partir de mesures suffisamment difficiles à prévoir pour être imprévisibles, comme par exemple le taux d'humidité ou la température précise d'une pièce à un instant donné. Il y a toutes sortes de méthodes comme ça qui servent à générer ce qu'on appelle en informatique de l'entropie, c'est-à-dire rendre les nombres générés les plus imprévisibles possibles. Ouvrons une petite parenthèse, il semble d'ailleurs que rien dans la nature ne soit purement aléatoire. Les sciences physiques nous montrent la nature fondamentalement prédictible et causale de l'univers. Cette parenthèse refermée, il n'empêche que même si les lois physiques permettent de prédire n'importe quoi dans l'univers, ça implique pour être fonctionnel d'avoir une somme d'informations sur l'ensemble des éléments qui vont entrer dans la chaîne de causalité qui est beaucoup trop vaste pour être imaginable et mise en pratique. On ne peut pas simuler des systèmes trop complexes dans l'univers, c'est absolument impossible, on ne peut faire que des approximations. On peut donc tout à fait considérer que un ensemble de mesures physiques puisse être complètement aléatoire, dans le sens où on n'est pas capable de les prévoir, ces mesures. Et en conséquence, on peut considérer, par exemple, que si je prends le nombre d'habitants dans tous les pays du monde, ou le nombre d'habitants dans toutes les villes, villages et communautés du monde, alors cette liste de nombres sera complètement aléatoire et aura une répartition uniforme, c'est-à-dire que les valeurs seront réparties entre 0 et le maximum de manière à peu près régulière. Et en fait, eh bien c'est pas le cas. C'est ça qui est fascinant dans le merveilleux monde des statistiques et des nombres aléatoires, c'est que tout y est assez contre-intuitif. Dans cet exemple, la répartition des valeurs va suivre une règle qu'on appelle la loi de Newcomb-Benford, ou qu'on abrège en loi de Benford, dommage pour Frank Newcomb, qui est le premier découvreur de cette loi. Et selon cette règle tout à fait empirique, dans certains ensembles de valeurs qui devraient être aléatoires, ou qui sont apparemment aléatoires, en fait, la proportion de nombres qui commence par le chiffre 1 ou par le chiffre 2 est supérieure à celle des nombres qui commencent par des grands chiffres, 8 et 9, par exemple. Plus précisément, on a presque un tiers des nombres qui vont commencer par le chiffre 1, seulement 18% qui vont commencer par le chiffre 2, moins de 5% des nombres qui vont commencer par le chiffre 9. Alors c'est marrant parce que cette loi, on peut la vérifier sur certains claviers d'ordinateur. Suivant ce que vous faites avec votre ordinateur, il y a des chances pour que la touche 1 et 2 du pavé numérique de votre clavier soient plus usées que les autres touches. Le 0 est un peu à part, on l'utilise beaucoup, beaucoup, mais il rentre pas vraiment en compte dans cette loi, puisque un nombre ne commence pas par 0, ça veut pas dire grand-chose. On parle bien du premier chiffre significatif, c'est-à-dire du premier chiffre qui n'est pas 0, et le 0 est très usé parce qu'il sert tout le temps, mais pour d'autres raisons. Et c'est lié à cette loi qui a plusieurs explications, notamment les propriétés mathématiques des multiplications, c'est-à-dire que cette loi s'applique bien aux ensembles qui sont construits suite à de diverses multiplications et non pas des additions. Autrement dit, cette loi ne s'applique pas à tous les ensembles de nombres aléatoires, mais à certains ensembles de nombres aléatoires. Et elle fonctionne aussi uniquement quand les nombres sont répartis sur plusieurs ordres de grandeur, par exemple, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnera pas sur un ensemble de nombres compris entre 0 et 100, mais il faut bien avoir un ensemble de nombres compris entre 0 et 1000, 10 000, 100 000. Il faut comme ça une gamme de plusieurs puissances de 10 pour que la loi s'applique et fonctionne. Autrement dit, c'est quand même quelque chose d'assez fin et complexe, mais fascinant. Et c'est intéressant de bien la comprendre parce qu'elle a des applications, cette règle empirique. Elle permet par exemple de détecter la fraude fiscale ou la fraude comptable. Tout simplement, encore une fois, à cause des biais cognitifs humains, qui fait que quand les comptables vont falsifier les nombres, les valeurs de leurs rapports, ils ne vont pas naturellement respecter cette répartition de Benford des nombres et ils vont créer des nombres qui n'appliquent pas la règle et c'est comme ça qu'on va pouvoir détecter qu'il y a eu une manipulation des chiffres. Et là où je disais qu'il faut quand même une compréhension assez fine de cette loi, c'est que j'en ai un contre-exemple. En Suisse, elle a été utilisée pour détecter d'éventuelles fraudes électorales lors de votations. Et le problème, c'est que des chercheurs ont prouvé par la suite qu'en fait, cette loi ne s'appliquait pas aux élections, ça marchait pas. Ça ne marche pas dans ce cas-là. Ce que ça nous dit, c'est encore une fois l'importance de la précision, l'importance d'être pointu dans les raisonnements, dans la compréhension des choses. C'est un bon exemple d'un domaine où la précision ou la rigueur sont extrêmement importantes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais avec l'intelligence artificielle. Et c'est pour moi un danger de l'intelligence artificielle, c'est de nous habituer à une espèce de manque de rigueur tout en ayant les apparences. Revenons donc, justement, à nos jeux avec des intelligences artificielles pour un dernier test. Considérant que les ensembles de nombres qui respectent cette loi de Benford sont en fait assez courants, est-ce que si je demande à une intelligence artificielle de générer un ensemble de nombres aléatoires, elle va respecter cette règle de Benford dans la répartition des nombres? Eh bien en fait non, pas du tout. Parce que encore une fois, d'abord, elle répond à la question qui comporte le mot aléatoire de la même manière que les humains qui auraient pu le faire avant elle, et les humains qui l'auraient fait avant elle, ont tendance à générer des listes de nombres qui ne respectent pas ce genre de règles. Et même d'ailleurs, si je vous demande de générer une liste de nombres aléatoires, il y a de grandes chances que vous me sortiez une liste avec des nombres qui sont toujours entre 0 et 100, même si je ne vous le demande pas, et c'est ce qu'on retrouve quand on demande à une IA de générer une liste de nombres aléatoires. Ils sont, comme par hasard, toujours compris entre 0 et 100, ce qui limite quand même vachement le côté aléatoire de la demande. Ce qui est intéressant, c'est que si je précise un petit peu et que je demande à l'IA « Génère un ensemble de 100 nombres aléatoires répartis sur plusieurs ordres de grandeur et respectant la loi de Benford », alors, le test que j'ai fait sur l'IA Llama, cette fois-ci, histoire de varier le plaisir, et parce que la mise en forme des réponses était pratique à copier-coller, l'IA Llama m'a donc sorti une liste de 160 nombres, et non pas 100, je sais pas pourquoi, elle a pas compris que je lui en demandais 100. Mais cette liste de 100 nombres était accompagnée du texte suivant. Voici un ensemble de 100 nombres aléatoires respectant la loi de Benford qui stipule que les nombres commençant par 1 sont plus fréquents que ceux commençant par 2 et ainsi de suite. L'ensemble est réparti sur plusieurs ordres de grandeur. Là j'ai ma liste de nombres et elle conclut. Cet ensemble respecte la loi de Benford avec une plus grande fréquence de nombres commençant par 1 puis décroissante pour les nombres commençant par 2, 3, etc. Les nombres sont répartis sur plusieurs ordres de grandeur allant de 1 à 1566. C'est vrai que j'ai une liste de nombres qui va de 1 à 1566, donc sur plusieurs ordres de grandeur. Mais bon, j'en ai 160 au lieu de 100, donc elle a faux. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit dans le texte qui accompagne. Elle me dit qu'elle en a généré 100, alors qu'il y en a 160. Elle me dit aussi que ça respecte bien la loi de Benford. Or, j'ai fait des comptes, vous pourrez aller les vérifier si vous voulez sur lafourmi.media si ça vous amuse de compter des chiffres. Mais j'ai fait des comptes, ça marche pas du tout. Elle m'a donné 45% de nombres qui commencent par 1, ce qui est beaucoup trop, et seulement 8% de nombres qui commencent par 2, ce qui est pas du tout assez, etc., etc. Autrement dit, c'est juste du n'importe quoi. Encore une fois, l'IA ne comprend pas le sens des mots, elle comprend pas ce qu'on lui demande, elle ne peut pas le comprendre, et en plus, elle n'applique aucun raisonnement. C'est pas une surprise, on se doutait bien que le test ne fonctionnerait pas, et c'est ce que j'avais commencé à noter dans les tests sur les pangrammes, c'est la manière dont l'IA est amenée à présenter ses résultats de manière très très sûre d'elle, entre guillemets, de manière très affirmative, voire même scientifique et factuelle. Et j'ai continué le test justement pour illustrer ce danger-là, parce que là on a un réel danger, je trouve, s'il n'y a pas une vraie éducation au fonctionnement de l'IA dans la population générale, à bien comprendre que c'est pas parce qu'on a un tableau avec des chiffres que les résultats sont vrais et factuels, parce que l'IA m'a sorti vraiment des super jolis graphiques et des tableaux de chiffres avec le compte, les statistiques, la répartition en pourcentage de ce qu'elle avait fait, sauf que le contenu des tableaux est complètement faux. Quand on additionne les valeurs, les totaux sont faux, elle nous fait des tableaux de pourcentage où le total dépasse 100%, enfin, il n'y a rien qui fonctionne. Dedans, ce n'est que du remplissage qui a l'air vrai, et c'est son job, c'est ça que fait une IA statistique, elle génère du texte qui a l'air vrai, mais il n'y a rien dedans, ce n'est que du vide, c'est que de la mise en forme. L'absence de raisonnement de métacognition n'est plus à démontrer. Même dans les IA raisonnantes qui sont réalignés, qui sont ajustés pour limiter les erreurs, c'est absolument pas possible de leur faire confiance. Et c'est même encore pire, parce que elles sortent des choses qui sont plutôt vraies la majorité du temps, alors les erreurs vont être encore plus discrètes. Mais elles seront toujours là. Jamais on arrivera avec une méthode statistique à faire une IA généraliste qui a bon à tous les coups. C'est pas possible. On ne peut pas prévoir tous les cas. Et l'IA, elle ne fait pas de raisonnement et elle ne peut pas vérifier ses propres résultats. Elle n'a pas de métacognition. Et on n'est pas prêt de l'ajouter, vu qu'on ne sait pas comment ça marche. Ce qu'on sait faire, c'est écrire des programmes informatiques, analytiques, logiques, qui répondent à des demandes précises. Autrement dit, on sait faire des systèmes spécialistes et spécialisés, et on le fait en informatique depuis 70 ans, au moins. Avec l'IA, on est du côté statistique, non logique. On est dans l'heuristique. On a des résultats qui ont des apparences vraies, qui sont utiles quand on travaille à l'apparence de quelque chose, mais auxquels on ne pourra jamais faire confiance sur le fond. Et ça, c'est fondamental. Et c'est encore pire, encore une fois, plus les IA se donnent l'apparence d'avoir l'air vrai, plus il sera difficile de détecter et de corriger les erreurs et les biais. Autrement dit, il faut se méfier, il y a un vrai problème de confiance à avoir envers ces systèmes. En se penchant ainsi sur la cognition réelle ou fantasmée des intelligences artificielles, il semble bien que l'approche connexionniste ne soit pas suffisante pour expliquer l'intelligence. Autrement dit, il ne semble pas que entasser des millions de neurones et multiplier des milliards de connexions entre eux ne soit la voie qui mène à la compréhension de l'intelligence. Et c'est probablement pas juste un problème d'échelle, ce n'est probablement pas en multipliant encore ces nombres qu'on va arriver à quelque chose qui approche un semblant de cognition ou fasse tout d'un coup émerger une métacognition un peu comme par magie. Dans la quête utopique ou dystopique de l'intelligence artificielle générale, qu'est-ce qui pourrait donc surmonter ce problème et apporter une véritable métacognition et des raisonnements logiques, démontrables et vérifiables à l'intelligence artificielle? Personne ne le sait. Le sujet n'a pas réellement progressé depuis des dizaines d'années. En réalité, depuis les premières modélisations mathématiques des neurones, on n'a pas vraiment fait de progrès fondamental. Et puis, bien qu'on ait fait des progrès en neurosciences, les principes des fonctionnements métacognitifs du cerveau sont toujours un mystère aujourd'hui. Si on prend conscience de toutes ces limites, alors moi je pose la question, quels usages restent-ils aux IA statistiques, à plus forte raison généralistes, et question subsidiaire, les usages qui restent valent-ils les nombreux impacts de l'IA statistique sur l'environnement, sur la société, tous ces impacts dont on a pu parler tout au long de cette saison du podcast? Encore une fois, moi je pose la question, vers où penche la balance bénéfice-risque dans les outils d'IA qu'on utilise? C'est une question qui mérite d'être posée pour tous les outils qu'on utilise, et en particulier les grandes IA statistiques. Je ne dirai pas que la saison 1 est maintenant terminée. Qui sait, peut-être l'envie et le sujet d'un nouvel épisode va émerger durant l'été. Quoi qu'il en soit, la saison 2 de La fourmi dans la coquille est en préparation. Le sujet sera la couleur, de la physique de la couleur des rayons lumineux des photons jusqu'à la couleur dans l'art et l'usage artistique des couleurs, en passant par la cognition humaine évidemment et l'interprétation que font les humains et les animaux des rayons lumineux et de ce qu'est la couleur sur un plan philosophique. Plein de questions passionnantes et qui prêteront peut-être un petit peu moins à débat que cette saison 1 sur l'intelligence artificielle, mais qui n'en sont pas moins tout à fait excitantes à préparer. J'ai hâte de vous partager tout ça. Je n'ai aucune date à vous donner. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast sur lafourmi.media pour ne pas rater les prochains épisodes et les prochaines saisons. N'hésitez pas non plus à partager ce nouvel épisode et ceux qui suivront pour m'aider à élargir l'audience des joyeux auditeurs de La Fourmi dans la Coquille. Je vous remercie tous chaleureusement pour vos retours intéressants et votre engagement et les discussions qu'on a pu avoir quand on s'est rencontrés ici ou là. Et je vous souhaite un bel été si vous êtes dans l'hémisphère nord et je vous dis à bientôt. Merci encore. C'était La Fourmi dans la Coquille, le podcast qui cherche la sortie, par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast, et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.